Artisan de paix. Artisan de paix, une réflexion autour de la non-violence, guidée par Yves Ardourel.
Déserté, c'est le sujet d'un film israélien qui vient de sortir sur nos écrans. Son titre, Le Déserteur. Le film raconte la cavale d'un jeune soldat israélien qui fuit le service militaire obligatoire qu'il effectue au sein de la bande de Gaza. Il fuit pour retrouver son amoureuse à Tel Aviv. Le film a été tourné avant les événements actuels de la guerre à Gaza. La désertion de ce jeune homme de 18 ans n'est pas présentée comme un acte politique, mais comme une révolte universelle, une ode à la vie, à la liberté, dans l'insouciance d'une jeunesse un peu perdue. Au-delà de cette cavale fougueuse, burlesque, pleine de rebondissements au cœur de la société israélienne, le réalisateur, Danny Rosenberg, pose la question de la désertion. Et si la vraie valeur était en effet dans ce refus de participer au projet de destruction, de répression, de massacre? Et si la désertion était le vrai courage, celui de choisir la vie, l'espérance d'un autre monde? Et même si le film ne le pose pas ainsi, on ne peut pas s'empêcher de voir la désertion comme un moyen efficace de s'opposer à la guerre, si déserter était un vrai engagement d'humanité. Déserter à mauvaise presse. Des soldats français, horrifiés par la boucherie des tranchées durant la guerre de 14, ont été fusillés pour cela. Le Déserteur, un film courageux, drôle, plein de vie, au cœur d'une actualité qui devient de plus en plus brûlante. Comment s'engage-t-on pour la paix en temps de guerre? Le journal Le Monde a écrit sur ce film une œuvre universelle, symbole d'une jeunesse qui refuse la guerre. La guerre est un crime. Cette assertion toute simple n'est inscrite dans aucune charte, dans aucune convention internationale, dans aucun texte de loi. Il y a bien eu « Tu ne tueras point » gravé dans les tablettes de la loi il y a quelques millénaires. Il y a bien des textes par centaines qui disent combien la guerre est une abomination. Il y a les témoignages des soldats traumatisés. Mais pas de déclaration claire, de reconnaissance partagée que la guerre est un crime. Toutes les guerres. Pas de guerre juste, il y a juste un crime qu'il faut condamner. Pourtant, il y a énormément de raisons et d'arguments qui peuvent être déployés, rassemblés pour inscrire dans nos lois, dans le prolongement des conventions sur les droits humains, cette injonction d'humanité, la guerre est un crime. Ce qui est reconnu et décrit, ce qui est inscrit dans des conventions internationales et ce qui fait l'objet de démarches judiciaires qui peut donner lieu à des procès, ce sont les crimes de guerre. Les crimes de guerre sont répertoriés et sur tous les territoires de guerre, ils sont recherchés par des commissions et des procédures sont en cours. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, les crimes de guerre sont définis comme des violations graves du droit international commises à l'encontre de civils ou de combattants à l'occasion d'un conflit armé. Torture, traitement inhumain, destruction et appropriation de biens, détention illégale, déportation, prise d'otages. Les nombreuses infractions constitutives des crimes de guerre tiennent sur plus de 5 pages dans l'article 8 du Statut de Rome, le traité à l'origine de la création de la Cour pénale internationale en 1998. Toutes les attaques indiscriminées contre les populations civiles qui doivent être protégées sont des crimes de guerre. Résume l'avocate Clémence Bechtart, qui représente la Fédération internationale pour les droits humains et la coalition française à la Cour pénale internationale. Les biens civils, comme les écoles ou les hôpitaux, ne devraient pas faire l'objet d'attaques ou de bombardements, de même que d'affamer les civils délibérément, ne pas envoyer les secours ou forcer la population à fuir, cela tend à être des crimes de guerre, ajoute-t-elle. D'utilisation de gaz ou d'armes généralement interdites qui peuvent causer des souffrances inutiles ou frapper sans discrimination, comme des bombes à sous-munitions, est aussi considéré comme un crime de guerre. En temps de guerre, le sort des prisonniers est aussi regardé à la loupe. Ils doivent être bien traités d'après Clémence Bechtartre. Dans le cas contraire, il peut s'agir d'un crime de guerre. Mais on se rend compte que l'effet de ces déclarations et des procédures engagées pour être portées devant la Cour pénale internationale est limité. C'est même parfois l'occasion de discréditer l'adversaire, en faire un ennemi toujours plus barbare, et cela renforcer pour les opinions publiques l'idée d'une guerre juste et justifiable. Peut-être est-il temps d'oser enfin franchir une nouvelle étape pour l'évolution des droits humains et arriver à inscrire dans une convention internationale « la guerre est un crime ». Pas d'illusion, ce n'est pas parce qu'un jour le droit international aura introduit cela dans ses textes, dans une 5e convention de Genève par exemple, que la guerre disparaîtra. Ce n'est pas parce que la loi interdit de tuer son voisin que les assassinats ont disparu. Mais au moins, l'interdiction est claire, condamnable et condamnée. Tuer son voisin, même s'il entre par effraction chez vous, est un crime reconnu par la loi. Le moment n'est-il pas venu de dire avec sérieux « la guerre est un crime, ceux qui la préparent, l'organisent et la réalisent sont des criminels, et ceux qui participent sont leurs complices ». Ouvrir la démarche pour faire adopter cet avis ne va pas être simple ni immédiat, mais engager le mouvement serait déjà une victoire.
Alléluia. 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 Alléluia.
Leonard Cohen, Alléluia. Est-ce un hymne à l'espérance, à la nostalgie, je ne sais pas. Que dire sur les crimes de guerre? Il y a en effet tout un arsenal juridique pour repérer, dénoncer et juger les crimes de guerre, ce sont en particulier les 4 conventions de Genève. Petit rappel historique. Bien que l'interdiction de certains comportements lors de conflits armés remonte à plusieurs siècles, au Moyen-Âge, l'Église interdit les combats le dimanche, par exemple, la notion de crime de guerre a plus particulièrement été élaborée à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, à l'occasion de la codification du droit international humanitaire, également connu sous le nom de droit des conflits armés. Les conventions de la Haye, adoptées en 1899 et 1907, se concentrent plus particulièrement sur l'interdiction qu'ont les parties au conflit d'utiliser certains moyens et méthodes de combat. Plusieurs autres traités connexes ont été adoptés depuis. En revanche, la Convention de Genève de 1864 et les conventions de Genève ultérieures, notamment les 4 conventions de 1949 et les 2 protocoles additionnels de 1977, s'intéressent surtout à la protection des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Aucun texte de droit international ne codifie à lui seul tous les crimes de guerre. Les conventions de Genève de 1949 ont été ratifiées par tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies. Un niveau d'acceptation que n'ont pas encore atteint les protocoles additionnels. Nombre des règles contenues dans ces traités sont cependant considérées relevées du droit coutumier et partant s'imposent à tous les États. En effet, dans les guerres d'aujourd'hui, comme dans celles d'hier, les belligérants, membres de forces armées, gouvernementales ou membres de groupes armés non étatiques, n'ont pas une entière liberté. Le droit international leur pose un certain nombre d'interdictions, au premier rang desquelles celle de ne pas s'attaquer aux personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. On l'oublie parfois, cette interdiction ne concerne pas uniquement les civils, le droit international impose aussi d'épargner les combattants désarmés, malades, blessés, capturés, et de les secourir. La Cour pénale internationale a été créée en 1998 par le Statut de Rome, lors d'une conférence diplomatique à Rome. La Cour a été établie pour juger les auteurs des crimes internationaux les plus graves, tels que les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. C'est une juridiction permanente à vocation universelle. Le statut de Rome a été adopté lors de la conférence de Rome en juillet 1998. Il entre en vigueur le 1er juillet 2002 après sa ratification par 60 États. Conclusion. Soyons honnêtes, reconnaissons qu'il ne peut y avoir de guerre sans crimes de guerre. La dénonciation des crimes de guerre s'impose et les diverses conventions internationales exigent que soient respectés les droits humains. Tout ceci conduit logiquement à reconnaître que la guerre est un crime. Tout citoyen est légitime de reprendre cette proposition et d'engager un processus de reconnaissance juridique. On doit quand même reconnaître divers points de blocage dans ce processus. Les dispositifs internationaux pour la gestion des conflits entre les États ne sont pas assez solides, pas assez reconnus, respectés. Les moyens attribués à ces dispositifs sont dérisoires par rapport aux moyens dévolus aux armements et aux moyens de destruction. Un deuxième point de blocage se trouve dans la compréhension des moyens de résistance des personnes et des peuples. Comment peut-on résister à la domination, à l'oppression d'un adversaire, sans les armes de destruction et de mort? Y a-t-il des forces de résistance qui peuvent être mises en œuvre avec efficacité? Des méthodes et des moyens existent, mais ils sont mal connus, dévalorisés. Ce sont les moyens de la non-violence, bien sûr. Il faut les enseigner, les renforcer, les développer. Cette vision est utopique, sûrement. Mais bien moins que de croire que la violence, la destruction et la mort sont des solutions acceptables et durables.